Vous écoutez RTL.
Bonjour Xavier Mathias.
Bonjour.
Bienvenue. Vous le saviez que Léonard de Vinci était végétarien ?
Non. Je l'apprends et je suis ravi de l'apprendre.
Ben oui, c'est une bonne nouvelle parce que vous qui défendez les légumes, vous allez pouvoir
mettre ça aussi en avant. Oui, ce qui m'empêche pas de manger de la viande. Ça m'empêche pas de manger de la viande, mais raisonnablement par contre.
Ah, ça, c'est un bon message, un premier bon message. Vous êtes maraîcher bio, vous êtes formateur. Ça veut dire que vous apprenez à quoi ? À bien choisir, à cultiver aussi des légumes ?
C'est ça, j'accompagne, je transmets. Enfin voilà, c'est toujours cette idée d'une chaîne de savoir qu'on fait passer. Donc moi j'ai eu la chance qu'on me fasse passer plein de choses. J'arrive à un âge où maintenant c'est à moi de les faire passer aussi.
Et le premier conseil, il semble évident et pourtant on est peut-être assez peu nombreux à le respecter. C'est quoi ? C'est de respecter les saisons tout simplement.
Oui, c'est d'accepter aussi qu'il y a un rythme différent. C'est pas facile, hein. On est vraiment sollicité, sur-sollicité par les clics, par tout ça, etc. Ouais. Tout va très vite.
C'est qu'il faut attendre ces légumes, c'est ça, parfois ?
Ouais. Et en fait, c'est toujours cette idée que le meilleur moment est dans l'ascenseur, en fait. Et il y a un petit peu de ça, quand même. Et avec en fait, vouloir manger des légumes hors saison, c'est générer une énorme frustration, parce qu'on est, toujours déçu, en fait.
Mais ils sont moins bons, quoi.
Ouais. Tout simplement.
Alors, dans un instant, sur RTL, direction le supermarché. Comment reconnaître le vrai bio et le bon bio vous aide à bien lire les étiquettes. Allez, restez avec nous, les curieux.
Sidonie Bonnec, Thomas Huc.
Bonjour madame, vous vendez des fruits et des légumes ?
Pardon ?
On est chez un marchand de fruits et légumes. Alors, je voudrais des fruits et légumes, s'il vous plaît.
La curiosité est un vilain défaut.
On dit bien 5 fruits et légumes par jour, hein ? Alors nous, on est 4 en famille, donc ça fait 5 fois 4, ça fait 20. Fois 7 parce que je fais les courses pour une semaine, donc ça fait 140. Donc je voudrais 140 fruits et légumes, s'il vous plaît.
Sur RTL.
Virginie Hoc, l'humoriste qui applique à la lettre les consignes de santé gouvernementale. Et ce qu'on écoute là...
C'est du Mozart par des légumes.
Oui. Au concombre à hanche et à la carotte flûte. Ça, c'est quand même la meilleure. Bien joué.
Écoutez de jolies choses, monsieur Touchard.
Bien joué, François Touchard, notre réalisateur. Bon, vous allez peut-être profiter du week-end pour cultiver votre jardin, votre potager. On vous donne des conseils grâce à notre invité qui est maraîcher, Xavier Mathias. Tiens, cultiver bio, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas du tout de produits chimiques ? C'est possible, ça ?
Alors, ça veut dire pas de chimie de synthèse. Ce qui est différent de la chimie naturelle. Oui. Le vinaigre blanc, par exemple, c'est de l'acide acétique, c'est de la chimie naturelle. Mmh. Donc, on n'utilise pas de chimie de synthèse. Oui, en règle générale, on s'abstient de tout emploi de chimie, mais même naturelle, où avec, on distingue vraiment deux choses. Le producteur, qui a une vraie pression économique et qui, à ce moment-là, va utiliser de temps en temps des produits bio, naturels, mais qui ont un impact forcément sur l'environnement, malgré tout. Et puis, les jardiniers amateurs qui, dans leur jardins n'ont pas du tout cette pression-là. Donc, pourquoi avoir peur et pourquoi traiter et pourquoi ne pas partager un peu plus ?
Voilà, petite question personnelle, Xavier Mathias. Papa Bonnec, en ce moment, donc mon papa essaye de faire un carré potager et il ne sait pas quoi acheter. Parce que est-ce que le bois doit être traité ou pas de ce carré potager ? Parce que ça concerne beaucoup de Français, ça, de faire son petit carré potager sur son balcon, dans son jardin.
Alors déjà, mes félicitations à votre papa, c'est une super initiative. Et puis, évitez vraiment les bois traités, évitez les bois traités autoclaves.
Parce que c'est plus sinon nos fruits, nos légumes.
Non, et puis même, c'est pas stable, tout ça part quand même pas mal dans les substrats, dans le sol, donc c'est à éviter vraiment d'urgence. Et puis aussi se dire que c'est pas forcément fait pour durer, donc on peut tout à fait récupérer des palettes, par exemple. Vous savez, les palettes emballage jeté, emballage perdu, pas les palettes traitées, mais on sait que pendant 3, 4, 5 ans, pas plus, après ça pourrit, mais c'est pas grave, on recommence, c'est pas non plus un travail énorme, et voilà, et on participe là d'un cycle, en fait, au lieu d'en rajouter encore.
Est-ce qu'il faut beaucoup de place pour créer son potager ?
Alors, tout dépend de nos objectifs. Si on veut vraiment s'alimenter complètement, oui, bien sûr. Après, si on veut se faire plaisir, découvrir, partager un petit peu, etc., là, j'aurais tendance à dire, mais déjà, un balcon suffit déjà à se faire plaisir, suffit déjà à cueillir. On peut déjà avoir une vraie possibilité de cueillette sur des balcons.
Et alors, qu'est-ce qu'on plante, quoi, son balcon ? Parce que moi, je suis nul, donc qu'est-ce que vous me conseillez ?
Alors, en ville, il y a des plantes que je trouve très, très bien adaptées, donc dans les Par exemple, le curcuma, ça pousse très bien, c'est très joli. La citronnelle aussi, la vraie citronnelle de Madagascar, qui réussit très très bien en ville. Après, il y a toute la petite gamme des aromatiques. Et puis aussi, mes chouchous, les légumes vivaces. Donc,
c'est quoi les légumes vivaces?
Les légumes vivaces, c'est des légumes qu'on ne ressème pas tous les ans, voilà, qui vont tenir plusieurs années. Chou vivace de Dobranton, par exemple, la roquette vivace, on est tous amateurs de roquettes, hein, ouais. Je crois. Quand même. Alors, on a une roquette qui vit plusieurs années. Et ben là, en ce moment, elle est ressortie. Donc là, c'est le moment de l'accueillir. On ne l'accueille pas en été, elle est trop piquante, mais pour les intersaisons, c'est vraiment génial.
Comment on fait, Xavier Mathias, quand on a la chance d'avoir un bout de jardin un peu plus grand et on veut faire un potager? Est-ce qu'on met tout? Faut les organiser comment, ces légumes et ces fruits? On les met tous ensemble? On range les légumes avec les légumes, les fruits avec les fruits? Ça s'organise comment, quoi, tout ça?
Est-ce qu'il y a des familles?
Alors, oui, il y a des familles, il y a des grands types, etc. Ben, c'est peut-être faire un peu d'anthropomorphisme et de se dire que les légumes, ils sont comme nous. Chacun a besoin d'une place différente, d'une exposition différente, etc. Et déjà, s'appliquer à bien suivre cette règle-là. De quelle place a besoin cette espèce? De quelle exposition elle a besoin? Pour les plantes potagères, c'est assez simple. En fait, souvent, c'est quand même des plantes de plein soleil. Il y a très peu de plantes demi-ombre, hormis la menthe, par exemple. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui ont un balcon qui n'est pas très bien exposé. On peut parfaitement cultiver la menthe dans des zones demi-ombre.
Et ça fait partie des conseils que vous donnez dans ce livre « Faire connaissance avec les légumes », publié, coédité par Actes Sud et Kaizen, Xavier Mathias. Et puis alors, vous nous aidez aussi à bien choisir au supermarché, à lire une étiquette. Ça semble évident, mais qu'est-ce qu'il faut regarder sur une étiquette?
Ah oui, c'est pas simple hein, quand même, parce que enfin, je suis désolé.
Trop de mots, trop de chiffres.
Ouais, quand même.
Logos,
et puis c'est pas très sympa, je trouve. Il y a plein de gens qui font plein d'efforts pour essayer de comprendre et de les noyer comme ça dans un flux. À ce point, je regardais même dans un supermarché la couleur verte qui était un petit peu symbole du bio, qui est reprise partout. On se noie complètement là-dedans. Donc, il y a un label qui s'appelle le label AB, donc pour agriculture biologique. Au niveau européen, il y a une harmonisation pour la production végétale et animale. Cela dit, n'importe quel label, n'importe quel circuit vaut pas, effectivement, le maraîcher de proximité, le circuit le plus court possible. Je peux hélas pas dire le marché, puisqu'au marché, il y a énormément d'acheteurs-revendeurs.
Mais attendez, et le marché de proximité, il n'est pas forcément bio, c'est pas grave, au mieux, on peut quand même le consommer.
Alors voilà, ça pose une vraie question. Par exemple, si j'achète des pommes pas bio, mais produites en France.
Voilà.
Alors elles ont poussé en France avec des produits qui viennent pas du tout de France, mais qui vont bien rester dans les nappes phréatiques derrière. Qu'est-ce que j'encourage? Un produit qui vient pas de chez moi, mais qui a poussé son produit, ou un produit qui vient de chez moi, qui a poussé avec beaucoup d'aide, entre guillemets, hein, une aide maléfique.
On prend du bio donc.
Ouais, si pour moi, ça fait aucun doute. Enfin, moi, je me pose pas du tout cette question d'opposer.
Du bio et avec le label AB.
Voilà.
C'est le conseil le plus simple.
Je pose pas le local au bio. Pour moi, le bio est de toute façon meilleur pour notre nature, quoi.
Et notre santé.
Ouais. Donc c'est ça que. Et puis plus on en achètera tous, plus on incitera, je crois, hein, les producteurs à dire bon, allez, hop, maintenant c'est bon. Je franchis le pas, puisqu'autour de moi, il y a de la demande.
Et c'est déjà en train de se passer. On dit souvent avec Sidonie dans cette émission qu'on a le pouvoir de notre carte bancaire. Voilà, quand on décide d'acheter du bio, ben ça aide toute la filière à s'y mettre. Et d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi les tomates que vous mangez n'ont aucun goût, ben il y a une réponse assez simple qu'on va vous donner dans un court instant sur RTL.
14h-15h.
Une recette pour changer des pâtes, un gratin de légumes du soleil et parmesan. Vous allez voir, c'est super simple. Et alors, qu'est-ce que c'est bon?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, on est bien entre curieux sur RTL.
Tous les légumes, au clair de lune, étaient en train de s'amuser.
Ah, celle-là, elle va bien nous rester dans la tête aussi.
Je savais pas que moi, les légumes faisaient la fête la nuit.
Il
faudrait que je me couche moins tôt, moi.
Au clair de lune, ça va me faire le week-end.
La curiosité, c'est tous les jours du lundi au vendredi. C'est de 14h à 15h sur RTL. Et c'est vrai qu'on découvre les plaisirs des légumes bio, sains, avec le maraîcher Xavier Mathias. On disait qu'il y avait des saisons, évidemment, pour les légumes et les fruits. Il faut attendre, il faut avoir la patience pour déguster des légumes et des fruits de qualité. Là, c'est le début du printemps, mais c'est le bonheur, là. C'est la meilleure saison, finalement.
Alors, on a une petite période un petit peu compliquée avant que ça reprenne vraiment, parce qu'on est sur la fin des stockages des légumes racines, la fin des courges aussi, et que là, cette petite période un peu compliquée où on attend vraiment que les petits pois rentrent en production. Alors, on a les laitues, on a le mesclun, etc. On manque de choses un petit peu, un petit peu solide. Quoi,
qu'est-ce qui va arriver alors là? Il y a les petits pois, il y a quoi d'autre?
Voilà, il y a les petits pois, il y a les fèves, on va bientôt... Tiens, les artichauts, en mai, bientôt, ça c'est toujours un plaisir. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Bah, les asperges, forcément. Donc là, on est vraiment sur des choses de plaisir, de printemps. Et c'est normal, c'est la saison, c'est le climat qui veut... Il fait beau au printemps, il fait plus chaud, on a besoin de choses moins roboratives qu'en hiver.
Et alors les tomates, elles vont arriver quand les tomates?
Alors les tomates, si vous êtes en Touraine, les tomates, les premières tomates de jardin arrivent le 14 juillet. Oui, voilà. Donc,
ah oui, c'est
voilà. Et c'est un peu symbolique. Hein. Alors après, néanmoins, en maraîchage bio, en Touraine, donc centre de la France, c'est à peu près typique des climats, avec des tunnels froids, sans chauffage, on arrive à entrer en production véritable autour du 15 juin. Donc après 15 juin.
Et ça
juin,
dure combien de temps?
Alors quand les bonnes années, où vraiment ça va bien, on arrive à aller à peu près jusqu'à Halloween, quand même, avec deux séries
donc,
de tomates.
C'est
carrément vers tout début novembre. On y arrive. Alors avec néanmoins les premières tomates qui gustativement sous tunnel sont pas excellentes, elles sont saines mais pas excellentes. Les dernières sont pas excellentes. Donc en fait
la
bonne période pour moi c'est août septembre jusqu'à mi-octobre. Là c'est vraiment très bon.
Et pourtant et ça nous arrive et ça m'arrive, on mange des tomates toute l'année. Elles sont produites comment là ces tomates? Je savais que j'allais vous faire de la peine.
Ouais, imaginez des poulets élevés en batterie, ce que ça peut avoir de sinistre et de terrible. Imaginez la même chose pour des légumes en fait qui sont en hydroponie, c'est-à-dire qui sont dans des serres verts immenses, chauffées et qui sont pas dans la terre mais qui sont cultivés sur un substrat artificiel juste posé dessus avec une solution nutritive qui passe dans ce substrat. C'est de l'élevage en batterie mais pour des végétaux cette fois.
Ça devrait pas s'appeler tomate quoi, c'est ce que vous pensez?
Bah à mon sens non, ça devrait pas mais et puis je pense que la première chose qu'on pourrait faire c'est nous arrêter d'encourager ça parce que c'est pas bon et ça nous rend pas heureux, ça nous rend pas joyeux de manger des fruits comme ça.
Et est-ce qu'on peut trouver je sais pas sur internet ou je sais pas où, ou sans doute dans votre livre, un tableau des saisons aussi pour s'y retrouver, savoir quand les légumes arrivent finalement.
Ouais, c'est important en fait. Et donc on en a mis un dans le livre, effectivement, on a mis des références aussi de sites internet qui sont dans le livre.
Et donc
sur
c'est
ce
chez
Actes
Sud,
saisons.
Kaizen, voilà. Et le livre s'appelle Faire connaissance avec les légumes. Je passe à l'acte et on y découvre les bienfaits du poireau. Vous dites que c'est trois légumes en un. Zut, parce que moi je jette beaucoup du poireau, donc je garde que le blanc.
Alors en fait, ça c'est les cuisiniers japonais qui m'ont appris ça, c'est-à-dire que eux ont une vraie culture du végétal bien plus que nous en fait. Et donc ils comprennent pas qu'on fasse cuire de la même façon, le même temps, la partie très verte, la partie très blanche et la partie intermédiaire. Eux distinguent trois légumes différents avec des usages différents. Effectivement, dire que le vert est moins bon, effectivement, si on fait que du vert en poireau vinaigrette, ça va être un peu trash quand même.
Par contre,
c'est vraiment idéal. C'est ça qu'on devrait mettre dans nos potages. Le vert, il n'y a pas besoin du blanc tant que ça.
Je le jette, moi.
Moi, je cuisine pas.
Ah, pardon.
je dois faire un aveu, je cuisine vraiment pas. Mais je prends des notes, là. Pour tous mes potes qui cuisinent.
Une fondue de poireaux, c'est vraiment très, très bon.
Ça, qu'est-ce que c'est bon,
Mais alors, néanmoins,
je mange pas.
C'est difficile, Bonne idée. C'est difficile
photo,
à faire. Par contre, la fondue, vous voulez qu'elle soit bien cuite, si vous mettez le blanc, avec la pointe des feuilles, c'est pas du tout la même cuisson, c'est pas le même temps de cuisson. Donc,
le vert peut servir à un potage, le blanc à une fondue.
Ouais, ou même les blancs, la partie, le haut du blanc avec le départ des feuilles, ça vinaigrette, ça vraiment.
Bon, le mieux,
c'est
qu'on vienne manger chez vous, comme ça on comprendra.
Avec grand plaisir.
Bon, on continue grâce à vous de découvrir ces conseils, faire connaissance avec les légumes. Il y a ce livre chez Actes Sud, et puis il y a aussi faites pousser et déguster vos protéines, c'est chez Larousse. Voilà, il y a plein de bons conseils à trouver. Et puis alors aussi, ces légumes qu'on a un peu laissés de côté, un peu oubliés. Et moi, je sais pas pour toi, pour vous, Sidonie, le chervi, je savais pas ce que c'était, vous allez nous l'apprendre. Et le cerfeuil, je connaissais, mais le cerfeuil tubéreux, est-ce que c'est encore un truc nouveau? On va découvrir tout ça sur RTL.
J'étais en plein safari, là, avec un groupe de touristes. Et juste quand on est arrivé au milieu des lions, la Jeep a calé, j'ai cru que j'allais y passer.
RTL.
Mais vous êtes des lions, vous avez envie de me manger, c'est légitime. Mais si je peux me permettre, il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour.
La curiosité est un vilain défaut.
Je vous propose un deal. Vous me laissez partir vivant, Et en échange, je vous ramène de quoi faire une énorme salade niçoise.
Thomas Hugues.
Tomates, concombres, oignons rouges. Et en plus, je peux même vous ramener deux ou trois touristes. Normalement, c'est avec des anchois. Hein.
Sidonie Bonnec.
Ah Ben, il
Ben, le sketch lui aussi sur les 5 fruits et légumes par jour. Et puis alors ça, ce qu'on entend, explique. C'est le Vienna Vegetable Orchestra, groupe de musique qui n'utilise que des légumes.
J'avais dit qu'il jouait dans un groupe, François Touchard.
On en trouve des dingues quand même un peu partout. On est avec le maraîcher Xavier Mathias qui nous aide à choisir, à cuisiner des légumes sains, des légumes bio. Et vous, j'ai relevé tout à l'heure, vous disiez les Japonais ont une tradition culinaire végétale que nous, on n'a pas. C'est, ça ne fait pas partie de notre histoire culinaire, les légumes, pas trop quoi.
On mangeait beaucoup plus simplement que ça. Déjà, les aristocrates ne consommaient pas de légumes, hein. Ils étaient plutôt, eux, vers l'aérien, vers le gibier à plumes de préférence, donc on avait une alimentation plus rurale, elle, qui était beaucoup plus simple, avec le poterbe, des herbes qu'on fait cuire dans le pot, et qu'on va manger avec une légumineuse, de type pois, fèves ou haricots, et le tout est allé sur la soupe. La soupe étant la tranche de pain. Et c'est pour ça l'expression trempée comme une soupe, ça vient de là. C'est que la soupe, c'est la tranche de pain. Ouais. Ce qui, d'un point de vue nutritionnel, était vachement intéressant quand même. On a bien céréales avec la soupe, légumineuses avec ce qui est cuit au pot, les pois ou les fèves, et puis des fibres et des minéraux avec les herbes qui ont cuit dans le pot.
Et les pommes de terre, c'est vrai que les pommes de terre, elles étaient d'abord données pendant des décennies, des siècles aux animaux, aux cochons, avant que les humains se disent, tiens, finalement, il y a peut-être quelque chose à faire avec.
Non, c'est un petit peu plus compliqué. C'est surtout qu'on était très méfiants avec les pommes de terre, parce que les pommes de terre, les malheureuses, elles sont pour rien. Elles viennent d'une famille qui est mal famée, les solanacées. Donc là, il y a la jusquiame, il y a la belladone, il y a la mandragore. Dans cette famille-là, on était très, très méfiants avec les pommes de terre.
C'était les,
on
avait peur d'être empoisonnés, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ah,
voilà.
Oui, il a fallu beaucoup de sorcières.
Voilà, c'est ça. Et il a fallu du temps. Et il a fallu vraiment que Parmentier, non pas qu'il introduise la pomme de terre, mais qu'il se batte pour faire sa promotion. Mais juste à côté d'ici, hein, sur la plaine des Sablons, où elle était cultivée et protégée par les troupes royales, comme si c'était un trésor, etc. Donc là, elle a une histoire très locale par rapport à ici.
C'est un vrai casse-tête ici, quand même, quand on choisit des pommes de terre, par exemple, pour faire des frites ou de la purée. Oui, c'est pas pareil, Thomas. On n'utilise pas une pomme de terre
ça,
pour tout faire.
Ça, quand je fais les cours, je me dis, mais qu'est-ce que c'est?
C'est vrai, il y a beaucoup de variétés.
Je me dis, c'est des patates, quoi.
Bon, alors, deux conseils. Une variété, Xavier Mathias, pour faire des frites, une variété pour faire la purée, par exemple.
Alors, variété pour faire des frites purées, on est assez proche, mais binge, par exemple.
Ah oui, ça va.
La binge, la fameuse binge qui était tellement critiquée qu'on appelait pomme de terre à cochon, etc. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut demander une chair tendre. Chez les pommes de terre, n'y voyez pas malice de ma part, il y a les chairs tendres et les chairs fermes.
Ah oui.
Donc les chairs fermes, c'est pour purée vapeur, Belle de Fontenay, rate, etc. Et les chairs tendres, comme la binge, par exemple, hein, pour parler d'une ancienne variété, sont parfaites pour faire des purées.
Alors Xavier Mathias, dans votre livre « Faire connaissance avec les légumes », on découvre le chervil. Alors c'est quoi le chervil?
Oh, le chervil, il a disparu, le malheureux. Ben, le chervil, c'est un légume racine qui était servi sur les tables royales, ce qui est quand même assez exceptionnel, parce qu'il est réellement très très bon. Alors quelques maraîchers bio le recultivent, normal, on n'est pas fou, et on sait que le chervil, à la différence de plein de légumes qui sont énormément cultivés, il n'a pas de maladie ni de ravageurs spécifiques sous nos climats.
Il a pas disparu,
Il n'a pas de maladie. Quand on le plante, on sait qu'on va le récolter, il ne peut rien lui arriver. Il n'a pas de mouche, il n'a pas de mildiou, il n'a pas de dents et foires, il n'a rien.
Mais c'est presque du délit de sale gueule, parce que moi, je ne connaissais pas, donc je suis allé regarder la photo du chervil. Là, non, mais on est des gens sérieux à la curiosité sur RTL.
Oui,
et alors, c'est tout tordu, quoi.
Voilà, c'est ça. Il y a un côté dreadlocks qui est assez étonnant. Ouais. Bonne nouvelle, on ne l'épluche pas, on le brosse, heureusement. À ce sujet-là, on épluche beaucoup trop les légumes. Hein. On pourrait ranger un peu nos économes.
Oui,
qui
si
sont
c'est
pas
bio,
agréables.
On peut manger la carotte avec la peau,
sûr,
la pomme de terre avec la peau.
Ouais. Alors, pomme de terre, on évite en fin de récolte, en fin de saison de récolte, mais sinon, oui. Mais les navets, on n'est pas obligé de les éplucher, les betteraves non plus. Enfin, faisons revenir un peu les brosses dans nos cuisines.
Xavier, Mathias, et le cerfeuil tubéreux, il ressemble à quoi? Et est-ce que c'est bon?
Alors ça, si vous en aviez mangé une fois, vous vous souviendriez, je vous assure que celui-là est tout à fait spectaculaire. Il a un goût qui est proche de la châtaigne. En fait, il est meilleur qu'une châtaigne, puisqu'il n'a pas le côté farineux. C'est absolument mais étonnant, spectaculaire, très compliqué à produire. Et on va le manger autour de Noël, en général.
Oh ben là, ça y est, j'ai faim.
Pourtant, vous allez vous mettre à la cuisine,
Thomas Hugues ? Pourtant, j'ai déjà déjeuné. Non, mais en revanche, je vais me remettre à table. Ça, je sais très très bien faire. Je suis vraiment très très bon pour la dégustation, moi. Mais en revanche, je pense que c'est foutu pour la cuisine. C'est trop tard.
Merci beaucoup.
Alors, on va citer vos deux livres, Faire connaissance avec les légumes.
Des indispensables.
Xavier Mathias, publié, coédité Actes Sud et Kaizen. Et puis, il y a aussi ce livre écrit avec François Couplan. Faites pousser et déguster vos protéines, légumes et plantes sauvages chez Larousse. Merci, à bientôt.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.